c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmyre Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée all inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Pour renseignements et réservations, au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons consacrer une large page à l'Abbé Pierre, une vie de combat qui sort mercredi dans les salles. À cette occasion, Frédéric Tellier, le réalisateur, mais également Emmanuel Berco et Benjamin Laverne seront nos invités exceptionnels en fin d'émission. Christelle Oscar, également la directrice artistique du Festival de Sarlat, sera avec nous pour nous présenter cette nouvelle édition qui démarre demain du côté du Périgord Noir. Et puis nos coups de cœur télé aujourd'hui avec notamment Lucie Lucas, l'héroïne de Clem qui nous rejoint dans une poignée de secondes, mais également Nicole Ferroni qui est à l'affiche du grand jeu des années Club Dorothée qui démarre jeudi soir sur Gulli. On aura le plaisir de recevoir Anne Lenen également à l'affiche de la série Master Crime aux côtés de sa compagne Muriel Robin pour la première fois dans une série. Et puis c'est le grand retour d'Astrid et Raphaël, ça sera vendredi soir sur France 2. À cette occasion, l'interprète d'Astrid, Sarah Mortensen, sera notre invitée.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé ce soir est consacré à Clem, évidemment, qui fait son grand retour pour un épisode exceptionnel intitulé Retrouvailles. Quel bonheur pour nous d'avoir Lucie Lucas qui est avec nous, l'héroïne de cette série. Bonjour Lucie, merci d'être là.
Bonjour, mais c'est moi qui suis ravie, je suis trop contente.
Mais écoute, c'est un petit rendez-vous quasiment régulier qu'on se donne ensemble et puis Clem on suit depuis la première saison, c'était nos débuts à la radio. Alors autant dire qu'on a une histoire un peu commune là-dessus.
C'est vrai.
Et c'est vrai que Clem c'est une histoire d'amour entre toi et Clem mine de rien maintenant.
Ah bah oui, c'est en tout cas une histoire d'amitié certaine. Voilà, c'est un personnage que j'affectionne énormément et je crois que c'est très rare d'avoir la chance de pouvoir connaître un personnage sur le bout des doigts. Elle et moi, on a vécu tellement de choses, mais tu sais, c'est un point que sur le tournage de cet épisode où je vois Victoria dans le scénario, Clem voit Victoria et évidemment elle pleure et puis on dit couper et puis je n'arrive pas à arrêter de pleurer.
Et oui.
Et je pleure, je sanglote et je n'arrive pas du tout à arrêter de pleurer. Et je n'y arrive pas parce que je revois les images de l'accident, je revois la violence de la voiture qui tourne, je vois ma mère qui répond pas. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Non seulement, il faut que tu ailles chez le psy pour toi-même, mais maintenant, il va falloir que tu ailles chez le psy pour soigner ces traumatismes de personnage.
Eh ben oui.
Et c'est vrai que j'ai une relation avec Clem qui est hyper fusionnelle. Enfin, tu te rends compte, c'est, je sais plus combien, mais 80 épisodes, un truc comme ça, c'est énorme.
Ouais, c'est assez dingue. Et puis là, le retour de Victoria, évidemment, alors en flashback, un peu comme du found footage, hein, puisqu'on la voit par l'intermédiaire de vidéos au départ, hein, pour le coup, parce que vous découvrez des vidéos d'elle au Québec quand elle a été vive chez son ravière, justement. Et puis, il y a toute l'émotion qui remonte, même pour nous, hein, spectateurs aussi. Donc, on imagine pour toi l'émotion que t'as pu vivre en revoyant d'une Victoria et en revoyant ces images, hein, ça c'est sûr.
Ah oui, c'est certain, c'est très émouvant.
Le retour d'Alizée aussi, ça quel bonheur, Élodie Fontan aussi qui revient, parce qu'en fait, Clem se marie dans ses retrouvailles, c'est vraiment un double épisode, événement et cadeau hein, pour les fans de la série, où Clem va se marier dans ce double épisode. Hein. Donc c'est les préparatifs qu'on va suivre.
C'est vrai que bon, on ne spoil pas en disant qu'elle va se marier, et donc c'est vraiment un épisode qui est très festif, enfin très festif. Il est en partie très festif, et c'est pour ça que y a le retour notamment d'Alizée, et c'est trop cool de retrouver Élodie Fontan, comme d'habitude, beaucoup de fou rire. Beaucoup de douceur, beaucoup de complicité. C'est assez magique, vraiment. de l'avoir à côté de moi et de pouvoir jouer avec elle à nouveau. Parce que Clem, c'est quand même une série qui est un peu laboratoire. On a changé de format plein de fois. On a été dans la tragédie, on a été dans la comédie, on a été dans le polar, on a fait plein de choses, vraiment, on a pris plein de risques et on a été dans l'engagement aussi beaucoup, on a parlé d'écologie beaucoup, on a parlé de justice sociale, on a pris plein de risques. Voilà.
En tout cas, toi, est-ce que tu as envie de continuer à l'interpréter, Clem? On sait que pour l'instant, il n'y a pas de suite prévue dans l'immédiat, mais en tout cas, la porte est absolument pas fermée. Et on le répète encore, hein, parce qu'on voit passer un peu partout sur les sites et les réseaux que c'est le final. Non, ce n'est pas forcément le final. On ne sait pas, pour le coup, s'il y aura une suite ou pas. Mais toi, est-ce que tu as envie?
Oui, moi si c'est toujours soumis au scénario quand même, parce que c'est
bien
on
sûr.
A vraiment besoin de d'aimer l'histoire qu'on défend, donc voilà, ça dépend si on arrive à se renouveler dans les histoires et si le public est au rendez-vous aussi, hein, tout simplement. Mais bien sûr, moi, enfin, Clem, c'est une famille pour moi, donc retrouver la famille, ce serait bonheur.
Est-ce que tu as une anecdote sur ce tournage à nous raconter particulière, justement?
Il y en a plein. Déjà on a joué le Canada en France, hein.
C'est pas vrai.
On est. Clem et Mathieu partent au Canada à un moment dans l'épisode. Et nous, on a fait attention au bilan carbone. On n'a pas pris l'avion. On est resté en région parisienne. Donc ça, c'était un petit peu particulier. Mais bon, c'était rigolo. On s'en est pas mal sorti.
On sent l'émotion, Lucie, quand Élodie arrive dans cette pièce que tu essayes la robe. On sent l'émotion de vos retrouvailles toutes les deux, comme si vous ne vous étiez pas vus avant de tourner la scène. Et on sent cette émotion hyper palpable pour nous, spectateurs, et pour vous deux. Comme si vous n'étiez pas vus avant de tourner. J'imagine vraiment, quand vous êtes revus sur ce tournage, l'émotion que ça a pu en tout cas vous procurer.
Ouais, tu vois, tu m'en parles, et là, direct, l'émotion monte. Elle m'a manqué, elle m'a beaucoup manqué. et je pense qu'en plus, c'est logique. Enfin, je veux dire, en plus de l'amitié que j'éprouve pour Élodie Fontan, Clem, le fait qu'elle ait plus de son amie avec qui elle partageait tout, ça change la dynamique des scènes, ça change la dynamique de sa façon de réagir au monde. Donc voilà, et c'est vrai qu'elle m'a manqué et que c'est bouleversant de voir que malgré les années, hop, en un regard, tout est reconnecté exactement comme avant.
Ouais, c'est
la complicité, elle est là, pareil.
Ouais, c'est ce qu'on sait, ça se sent en tout cas pour
fascinant.
Nous. Ouais. Ça c'est génial. On va terminer par tes projets, Lucie. Est-ce qu'on va te voir dans d'autres choses dans les semaines, dans les mois qui arrivent?
Oui, j'ai une émission qui sort le 8 novembre qui s'appelle Les Voyageurs Solidaires et donc ce sera
donc après-demain.
Donc après-demain, exactement. Et donc là, c'est une émission que j'ai fait avec ma fille aînée Lilou qui a 13 ans et on est parti voyager. On est parti à Venise. Et l'idée, c'est que je lui montre un peu comment on pouvait voyager autrement que ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux à travers les influenceurs. Donc, pas d'avion, pas de destination, genre Dubaï ou voilà. Mais une volonté d'aller vraiment plus vraiment dans le cœur de la culture et des gens. Et donc, une façon de voyager beaucoup plus solidaire et écologique. Et c'était un moment de complicité assez incroyable. Donc, voilà.
Et oui, on sait que l'écologie, c'est aussi ton fer de lance, hein, évidemment, Lucie, depuis des années. Et c'est un combat que tu mènes, évidemment. Donc voilà, et bravo pour ça, en tout cas, aussi, ma chère Lucie.
Merci.
On te dit à très très bientôt.
C'est moi, à bientôt, et merci encore, hein, c'est super.
Eh ben écoute, on te dit à très vite, en tout cas on t'embrasse très fort. Et puis ce soir, c'est Clem, c'est Retrouvailles sur TF1, c'est à 21h10, on ne le rate pas évidemment. C'est l'événement de ce 6 novembre, à très bientôt. Et tout de suite à bande-annonce.
Si vous voulez bien vous lever. Je vais maintenant procéder à l'union de Madame Boissier et de Monsieur Collina. Mathieu Eugène Marcel Collina, acceptez-vous de prendre pour épouse Clémentine Jeanne Inès Boissier?
Ne me laisse pas tomber.
Quoi?
Pas maintenant, je t'en supplie.
Clémentine, s'il te plaît, concentre-toi, parce que là, vraiment, on va pas y arriver. Hein.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé est consacré à Master Crime qui sera diffusé dès jeudi sur TF1, la nouvelle série inédite avec un duo de choc qu'on va pouvoir retrouver avec Anne Lenaine qui est notre invitée. Bonjour Anne.
Bonjour Alain.
Aux côtés de Muriel Robin. C'est la première série que vous faites toutes les deux. J'imagine l'émotion que vous avez eue à pouvoir tourner enfin ensemble, toutes les deux.
Oui, c'était très joyeux de recevoir cette proposition et on a beaucoup réfléchi parce que c'est une décision qui n'est pas anodine. Il fallait être sûr de la qualité du projet et dès la lecture, on a été toutes les deux très séduites par nos personnages et par la richesse de cette série qui est drôle, qui est très bien écrite et qui permet surtout grâce au personnage de Muriel qui apporte beaucoup d'humour, qui permet vraiment de traiter des enquêtes qui sont sombres tout en divertissant. Donc c'est la force de c'est vraiment la force de ce projet.
Alors oui, on va y suivre les aventures de Louise Arbu, criminologue reconnue pour évidemment, ses expertises affinées en matière de criminologie. Elle enseigne justement à ses étudiants et elle va être appelée aux affaires puisqu'elle avait délaissé un peu justement ce monde-là et la police notamment suite à une erreur qu'elle pense avoir faite quelques années plus tôt en mettant un homme en prison. Et évidemment, on va dire qu'entre Louise et Barbara, c'est pas tout de suite le premier amour.
Non, pas du tout.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire parce que Barbara, mon personnage, est intègre, extrêmement sérieux. Enfin, elle prend son job. Elle est un peu psychorigide, légèrement. Et il y a vraiment un conflit de méthode entre le personnage de Louise, qui elle est exubérante, tout à fait farfelue. Elle arrive sur mes scènes de crime en talons aiguilles. La sortie à son sac à main d'ailleurs la plupart du temps elle me coupe les rubalises sans aucune précaution donc c'est pas non plus un ressort qu'on va garder tout au long des épisodes et tout le temps.
Non, vous allez voir que ça va s'attendre au fur et à mesure.
Voilà, ça s'attendrit. il y a une admiration réciproque entre les deux personnages, elles vont s'entraider sur des trucs voilà, mais il y a quand même toujours ces petits pics réguliers qui sont savoureux et puis Louise elle la secoue parce que c'est ça que j'ai aimé moi dans mon personnage, c'est que elle est pas juste, c'est pas un capitaine de police, elle n'est pas seulement une figure d'autorité Barbara. Et c'est ce qui m'a plu à la lecture, c'est que je pense que beaucoup de femmes pourront se reconnaître en elle parce qu'en fait, c'est une mère célibataire voilà, avec un ado difficile comme beaucoup de femmes et c'est ce mélange entre cette vie professionnelle sombre, intense, et sa vie personnelle qui est compliquée, qui rend Barbara humaine et identifiable, en fait. Et Louise, justement, va même aller jusqu'à l'aider là-dessus, puisqu'il y a, Barbara qui est amoureuse du légiste dans la série et qui s'y prend comme un manche. C'est assez amusant. En fait.
Exactement. Et puis alors, jeudi, on va découvrir donc une première soirée avec les deux premiers épisodes, où là, au contraire peut-être du reste de la série où chaque épisode est bouclé, c'est un double épisode événement qui nous attend jeudi, puisque l'enquête va en fait s'étirer sur les deux épisodes.
Oui, absolument. Après, quand on passe à l'épisode 3, l'épisode 4, on est sur du 52 minutes et l'enquête est bouclée et fermée au bout d'un épisode. Donc, c'est encore plus rythmé, encore plus nerveux, je trouve, pour les avoir vus hier. C'est bien d'avoir des tapis rouges sur chaque personnage qui sont étirés tout au long de la saison et puis en même temps d'avoir une enquête qui est bouclée par épisode. Ça rend tout ça très dynamique.
Est-ce que, évidemment, s'il y a une saison 2, vous êtes partante, toutes les deux?
Écoute, mille fois partante. On a une chance folle d'être dans ce projet. On est très fiers d'être dans, vraiment. Et oui, il y a une saison 2, en fait. Donc, on a déjà les dates de tournage, tu vois. Donc,
ouais, c'est que TF1 a vraiment confiance en la série, ça c'est bien.
Donc ça c'est voilà, on signe pour voilà, si le public nous suit, on sera très très heureuse de conserver ce rendez-vous voilà.
Eh bien écoute, le rendez-vous est pris, en tout cas ça s'appelle Master Crime, c'est jeudi à 21h10 sur TF1, les deux premiers épisodes qu'on va pouvoir suivre avec un très joli casting évidemment que vous allez pouvoir découvrir, notamment sur ces jeunes criminologues, mais évidemment aussi avec Muriel Robin et Anne Le Nain. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup Anne d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup Alain, merci infiniment.
Est-ce qu'on va pouvoir t'attendre dans des nouveaux projets peut-être aussi hors de Master Crime là dans les semaines qui arrivent? Si tu veux nous en parler vite fait.
Dans les semaines qui arrivent, non. Moi, j'ai écrit mon premier film que j'ai signé avec France Télévisions.
Ouais.
Avant-première
en vue. Chez nous, on t'invite. Voilà. Hein, tu le sais.
Donc ça, c'est mon bébé. Donc je suis vraiment très heureuse de ce projet-là. Voilà, une pièce de théâtre aussi que j'ai écrite, qui sera mise en scène par Nicolas Briançon.
Qui est dans la série d'ailleurs.
Qui est dans la série, absolument. Tu vois, quand je te disais qu'on était en famille.
Rien ne m'échappe.
Et voilà. Donc voilà. Surtout des projets que j'ai écrits et qui devraient normalement voir le jour dans l'année.
Bon, bah on reste en contact évidemment, ma chère Anne. On te fait plein de bisous en tout cas, et puis on te
moi
dit
aussi,
à très très vite. Embrasse Muriel aussi, bien sûr.
Merci.
Et puis
parfait.
On croise les doigts évidemment. Vendredi matin à 9h, on sera à les yeux rivés sur les audiences, mais je suis sûr que ça va être un carton. À très vite.
Formidable. Merci Alain. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.
En matière de criminologie, c'est la référence.
Madame Arbus.
Professeur Arbus, ne m'interrompez plus jamais pendant un meurtre.
J'ai besoin de vous, professeur. J'ai une scène de crime qui vous concerne directement.
Un volontaire pour m'accompagner sur le terrain?
Vous étudiants, c'est comme ça que vous les formez? En enfreignant la loi?
Attitude.
Et notre coup de cœur télé va s'intéresser au grand jeu des années Club Dorothée qui sera diffusé à partir de jeudi 21h sur Gulli. Et on aura bien la chance justement de pouvoir voir à la présentation Nicole Ferroni qui est avec nous en ligne. Bonjour Nicole.
Et bonjour Alain.
Merci d'être avec
on
nous.
On ne se quitte plus.
Mais non, on a commencé octobre plus. Avec toi. Et puis on va commencer novembre avec toi. Donc on va se donner rendez-vous début décembre du coup maintenant. Qu'est-ce que t'en penses?
Voilà.
Exactement. Bon, écoute, on va replonger évidemment dans des souvenirs nostalgie au rendez-vous, mais pas que, de la bonne humeur. Et qui peut mieux que toi pouvait prendre les rênes avec Jackie de ces émissions exceptionnelles qu'on va pouvoir découvrir tous les jeudis à 21h sur Gulli pour une bonne heure de bonne humeur, de franche rigolade et puis aussi de souvenirs évidemment qui nous remémorent tous ces années cultes hein, finalement. Et à toi aussi.
Ah oui, oui, ah bah moi, à moi particulièrement. Oui. Je fais vraiment partie des gens qui ont été biberonnés au Club Dorothée, au Jackie Show, au Pas de pitié pour les croissants, à toutes les séries AB Productions, Premier baiser, Le miel Elisabeth, Hélène Garçon, évidemment. Donc oui, là, on part pour un long voyage dans le temps.
Alors, le concept, il est simple. C'est deux équipes qui vont s'affronter tout au long d'une soirée à travers des jeux, des quiz, des souvenirs pour tenter de remporter 1000 euros pour une association. Et parmi ces équipes, pour cette première émission qu'on verra jeudi, il y aura Hélène Segarra, il y aura Jeff Panaclock, il y aura notre Charlotte Gassio nationale qu'on adore aussi. Et alors, un concurrent de taille pour toi, je crois, en matière de fan du Club Dorothée, c'est Christophe Beaugrand.
Ah oui.
Ah là, Christophe il Beaugrand, est... À fond,
la barre très très haut. Hein. Ah oui. Et franchement, j'ai été épatée de son niveau de connaissance sur le Club Dorothée. Je pense, je peux même le dire, je pense que sur, notamment sur les génériques, il me bat à plate couture.
Ah, il connaît
parce
tout
moi,
par
les
cœur.
Génériques. Ah ouais. Moi, les génériques, j'ai, on va dire, premier couplet, le refrain. Lui, il a l'ensemble des couplets pour quasiment tous les dessins animés. Ouais.
Évidemment, quand on te propose de présenter une émission comme ça avec Jackie, j'imagine pour toi la joie que ça a dû être. T'as même pas hésité une seconde, je suis sûr, te connaissant un peu maintenant.
Non, c'est vrai, j'ai pas hésité. En plus, je suis liée à Jackie par une histoire un peu mignonne. C'est que, en fait, moi, quand j'étais petite, j'habitais au Maroc. Et en fait, il arrivait assez souvent que des publicités soient tournées au Maroc parce que c'est un endroit où la météo était plus clémente que la France. Et donc, un jour, j'ai eu la chance que Jackie du Jackie Show viennent tourner la pub du Siro Sport au Maroc. Et donc, je faisais partie des enfants qui, dans la publicité, criaient « Jackie, Siro Sport !» En fait, moi, j'avais déjà fait de la télé avec Jackie. Bon, lui, il s'en rappelle pas, mais parce que c'est normal, on était 30 gamins à cette époque-là. Mais du coup, c'était vraiment particulièrement mignon pour moi de pouvoir me retrouver à l'écran avec lui.
Alors, il y aura toutes les semaines aussi des invités exceptionnels. Pour cette première semaine, c'est Hélène Rollès qui sera sur le plateau justement jeudi et qui va, je crois, provoquer un grand vent d'émotion pour une des candidates.
Ah oui. Oui, en fait, ce qui est assez mignon, c'est que là, parmi les candidats qu'on a eus, en fait, il faut bien voir que les gens qui ont voulu candidater pour participer au grand jeu des années Club Dorothée sont des gens qui étaient fans de ces années-là, de ces émissions-là. Et voilà, après, chacun a sa préférence. Il y en a certains qui sont arrivés en étant hyper émus de rencontrer Jackie. Et là, c'est vrai que pour cette première émission, on a effectivement une des candidates dont l'idole absolue était Hélène Rollès, et ça tombait bien.
Ouais, il y a vraiment des jolis moments. Puis pour les prochaines semaines, il y aura Bernard Minet, Christophe Ripper, il y aura plein de monde qui viendront évidemment tout au long des semaines venir pimenter justement le jeu et ce grand quiz des années Club Dorothée. Nicole, c'est aussi piquante.
Exactement.
Et ouais, parce
oui,
que là, jeudi
pas,
soir, jeudi soir, si vous êtes sur Gulli et que vous n'avez pas assez Nicole Ferroni, vendredi soir, venez à 21h aussi sur Teva pour Piquante. Et ça pique, hein, ça pique de plus en plus. Et surtout, en plus, c'est que c'est en prime time maintenant.
et c'est vrai, oui. Donc je vais être le jeudi sur Gulli et le vendredi sur Teva. On n'est pas complètement sur le même type de programme, parce que c'est vrai que
ah, pas du tout.
Je pense qu'il y a des choses que je dis dans Piquante que je pourrais pas vraiment dire dans Gulli. Mais c'est voilà, c'est aussi ce qui est chouette, je trouve, dans mon métier, c'est de pouvoir m'adresser à des enfants, de pouvoir m'adresser à des plus grands enfants avec Piquante. Mais oui, Piquante, on rigole bien et on a la chance, même si maintenant on est en prime time, d'avoir quand même la même liberté d'expression, de ton que ce qu'on avait l'année dernière en étant à 23h.
Bon, et puis tu es toujours en tournée, évidemment, aussi en France, où on peut aller te voir avec ton nouveau oui. spectacle, hein, où tu es passé à Toulouse, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Et puis, alors, on va se mettre d'accord aussi sur quelque chose. Hein, on va remettre l'église au milieu du village. Hein. Le premier épisode des Années Garçons, c'était le lundi 11 mai à 18h. Et moi, j'y étais.
Ça wow. se dit.
Ouais, exactement. D'accord?
Ah, wow.
Ouais. Plus de débat entre le 11 et le 26 mai, c'était le 11.
C'était le 11. Bon, bah, voilà. Ouais, ouais. Il y a eu un peu litige sur le plateau, ouais.
Ouais, bah, ouais, voilà. Vous verrez, c'est pour teaser, voilà, c'était pour teaser un petit peu ce petit litige de date entre les équipes, justement, qui s'affrontent. Et ça, voilà, c'est assez drôle. Et puis, on va pas le révéler, évidemment. Mais regardez bien le début de l'émission. Le téléphone sonnera. On ne vous en dit pas plus. Voilà. Mais ça aussi, c'est le premier cadeau de cette saison, voilà, que vous aurez dans le grand jeu des années Club Dorothée avec Jackie et puis notre amie Nicole Ferroni. On t'embrasse très fort, Nicole.
Eh ben, de même, une bise également.
Et on te dit à très bientôt.
Oui, à très bientôt.
Et en attendant, on te retrouve chaque jeudi 21h sur Gulli pour le grand jeu des années Club Dorothée et chaque vendredi à 21h pour Piquante sur Teva. Et tout de suite, la bande-annonce.
Tous les jeudis dès le 9 novembre, Génération Nostalgie dans Gulli Prime.
Attention, on va replonger dans les années Club Dorothée.
Elles ont bercé votre enfance.
Allô ?
À l'huile.
C'est pas vrai, c'est Dorothée.
Vous êtes en triplex avec le Club Dorothée. Ah.
Vous savez, dans cette émission, il se passe des trucs de fou.
Hein. Ils sont là, rien que pour vous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé consacré également cette semaine à Astrid et Raphaël qui fait son grand retour tant attendu vendredi à 21h10 sur France 2. Et Sarah Mortensen est avec nous pour en parler, le personnage d'Astrid qu'elle incarne depuis maintenant 4 saisons. Bonjour Sarah, merci d'être là.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Mais écoute, tu sais que t'es une habituée de l'émission et que tu es toujours la bienvenue. Et puis, mais je crois que les téléspectateurs se sont tellement attachés à ces deux personnages d'Astrid et Raphaël, et notamment ce personnage d'Astrid que tu incarnes depuis maintenant 4 saisons et que tu habites littéralement. Hein. Je crois que c'est unanime.
Bah c'est surtout elle qui m'habite, j'ai envie de dire.
Oui,
moi, je dis toujours que mes personnages sont mes colocs et quand je tourne avec Astrid, elle me laisse, je dirais, un tabouret à côté du frigo, fond à gauche, ou dans la cuisine. Tout le reste lui appartient.
Comment vous avez vécu ça toutes les deux avec Lola pour le coup, de voir les spectateurs s'accrocher aussi vite à cette série? C'est toujours un pari quand on lance quand même une série comme ça. On sait jamais.
Alors, on ne sait jamais, et on ne sait jamais d'ailleurs de saison en saison si les gens vont rester. C'est toujours le challenge. Moi, je pense que plus ça fonctionne, plus il faut s'appliquer et faire encore mieux qu'avant. On avait commencé par un pilote,
ouais.
Avant que ça devienne une série, et qui avait connu un franc succès. Et c'est ce pilote-là, en fait, qui a débloqué l'idée et le fait que ça puisse devenir une série. Et le fait, évidemment, que ça, le succès grandisse, pour nous, c'est un réel bonheur. Et surtout que ça marche aussi bien aussi à l'international. C'est absolument incroyable de savoir qu'aujourd'hui, il y a 92 pays qui ont racheté Astrid et Raphaël et que ça cartonne notamment au Japon.
Que de rendez-vous. En tout cas, cette saison 4, on va découvrir un premier épisode vendredi, un peu à la manière de Lupin ou de Cat Size, justement, avec un vol de bijoux qui va avoir lieu dans un hôtel luxueux. Et évidemment, Astrid et Raphaël vont devoir décortiquer un peu tout ça, puisque le chef de la sécurité va se retrouver assassiné en plein vol, justement, de cette pierre précieuse. C'est ce qu'on va découvrir. On va découvrir aussi que Astrid n'aime pas les déménagements et qu'elle va voir surgir dans sa vie, eh bien, petit garçon.
C'est beaucoup de changements pour Astrid, beaucoup d'imprévus. Bah, les déménagements, ça fait partie de la vie, mais c'est vrai que les lieux, les rituels, les habitudes, c'est quelque chose qui est très important pour Astrid parce que ça constitue des repères qui la rassurent. Alors évidemment, sa meilleure amie est devenue est un peu un imprévu, imprévisible. Perpétuel, hein, je veux dire, Raphaël, c'est devenu un de tes repères, mais c'est tout sauf stable. Donc c'est ça qui est assez génial, c'est qu'Astrid son repère principal maintenant et le seul élément qu'elle ne puisse pas contrôler, c'est Raphaël. Donc il va y avoir ce déménagement, il va y avoir aussi l'arrivée et la rencontre avec le demi-frère d'Astrid, qui va être une rencontre évidemment très particulière, que je vous laisse découvrir. Et toujours son histoire d'amour avec Tetsuo. Il y a eu ce baiser en saison 3 et je vous laisse découvrir comment ça évolue en saison 4. Je vais vous glisser une petite anecdote, un petit secret de tournage, c'est que forcément, dans le bureau du commissaire, avec Jean-Louis Garçon, c'est un lieu où chaque année, il y a les plus grands fous rires de la scène. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on est tous réunis dans cette pièce, on rigole forcément. Et moi, c'est devenu une sorte de challenge. C'est que quand la caméra est sur lui en contre-champ, c'est qu'il faut absolument que j'arrive à le faire plier avant la fin de la scène. Voilà.
D'accord, ça sent les challenges entre amis.
Bon, voilà.
On verra dans cette nouvelle saison aussi le personnage de Nora qui y arrive aussi. Et puis toujours Benoît Michel, bien sûr, au casting. En tout cas, on va tous vous retrouver avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles histoires pour notre plus grand plaisir. Sarah, est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent aussi dans lesquels on va te voir dans les mois, dans les semaines qui arrivent aussi?
Alors, j'ai tourné un meurtre à Bayeux, réalisé par Camille Renouz, aux côtés d'Hubert Schender et Camille Clary.
Eh ben, écoute, on sera là, évidemment, pour en parler avec toi. Tu seras la bienvenue, bien évidemment.
Avec plaisir.
Tu viens juste, hein, tout juste de reprendre, justement, ce 6 novembre, tu reprends juste le tournage d'Astrid Raphaël, saison 5, pour les 4 premiers épisodes. Et puis, on va livrer aussi une petite indiscrétion, quand même, c'est que vous avez tourné à la rentrée un petit crossover avec Julie Depardieu et Alexandra L. Donc, ça aussi, ça va être un beau cadeau pour les fans qu'on pourra découvrir en 2024, hein.
Oui, c'est vraiment un petit bonbon, un petit souvenir pour faire plaisir aux fans. C'est un crossover qui va être, évidemment, c'est une enquête. Évidemment, on reste à la fois dans Astrid Raphaël et dans Alexandra L, mais il fallait faire une sorte d'alchimie entre les deux séries qui sont quand même très différentes l'une de l'autre. On est sur une comédie.
Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous. On te retrouve donc pour cette nouvelle saison inédite. Astrid Raphaël, c'est à 21h10. C'est vendredi. C'est sur France 2. Juste après Un si grand soleil. Vous ne ratez pas. Ça sera les deux premiers épisodes. À bientôt et merci.
À bientôt. Merci.
Doucement. Attention au carton.
Ouais, doucement, là.
Déménager est une épreuve. Une épreuve terrible.
Vous inquiétez pas, est-ce que ça va bien se passer?
Je ne sais pas.
Mais si, je suis là. Et puis, non, bah, attendez. C'est moi qui déménage, pas vous?
Oui. Cela constitue une source d'anxiété quand même.
Oui, je comprends.
Cela fait beaucoup de changements. Le déménagement, vos cheveux.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à L'Abbé Pierre, une vie de combat, un biopic réalisé par Frédéric Tellier, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Frédéric.
Bonjour, comment ça va?
Eh ben, ça va très très bien. Écoute, je suis très heureux de t'avoir après Sauver ou Périr, L'Affaire Esquin et tous les films que on a pu promouvoir avec toi. Là, c'est un biopic magnifique que tu nous livres avec une personnalité hors du commun, une histoire hors du commun, celle de L'Abbé Pierre dans ce film. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas, Frédéric, de parler de L'Abbé Pierre? En tout cas, c'était une sorte de lui rendre hommage.
Ben, tu sais, j'allais faire une généralité sur les metteurs en scène, je sais pas trop, mais moi, je sais pas trop ce qui me concrétise une idée. Plein de choses, plein de réflexions, de lectures, de sensations, de discussions, de rencontres, de colère du moment, de notre société, d'observation, d'inquiétude. Voilà, puis à un moment, le sujet, je précise, le sujet de L'Abbé, qui est arrivé sur la table avec les producteurs, et on s'est dit pourquoi pas, mais je connaissais pas très bien sa vie, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je ne savais pas si derrière le sujet, il y avait vraiment une histoire. Et j'ai commencé à me documenter sur sa vie, rencontrer des gens qui l'avaient connu, et là, je découvre cette épopée, vraiment, de sa vie. Je découvre les doutes, je découvre les injustices qu'il a vécues, les injustices qu'il a fait vivre, je découvre son caractère enjoué, drôle, facétieux parfois, hypersensible, hyper émotif, et je découvre sa grande compagne de route de pendant 40 ans, comme son épouse d'une certaine manière, d'un amour platonique. Je découvre qu'il a vécu 40 ans avec Lucie Coutaz, qu'ils ont vécu dans la même maison, dans le même petit appartement à Charenton, et tous les deux une chambre l'un en face de l'autre, puis à Esteville. Tout ça commence un peu malgré moi à constituer une histoire sacrément intéressante. Très vite, j'ai senti la nécessité de raconter sa vie de sa vingtaine d'années à sa disparition à 94 ans, donc presque un siècle de notre histoire à travers sa vie à lui, son regard. avec tous les rebonds qu'il a eu pendant toutes ces années, quoi.
74 ans d'histoire de l'abbé Pierre qui sont passés dans le film, tout incarné par Benjamin Laverne, qui est absolument mais incroyable, ouais. Méconnaissable. On va parler du maquillage qu'il a dû subir, à mon avis, d'ici quelques instants avec lui, puisqu'il va nous rejoindre, et Emmanuel Berco. Mais ça s'est imposé tout de suite, Benjamin.
Ça s'est imposé, oui et non. Devant l'excellence de l'acteur, évidemment. Oui, parce que j'avais déjà tourné avec lui dans mon film L'Affaire Esquin. Il avait un petit rôle. On s'était connus à cette époque et il était dans mes radars depuis longtemps. Oui, parce que j'en avais envie. Et non, parce que j'avais besoin de le rencontrer, j'avais besoin de savoir si lui en avait envie. Et au-delà de tout ça, on a fait beaucoup d'essais, de lectures, de rencontres. J'avais envie que ça dépasse un peu la normalité de faire ce film pour lui.
C'est dingue, des reconstitutions, les époques, les scènes de guerre, tout est dingue.
Tu vas voir aussi tout à l'heure, Alain, Emmanuelle Berco, qui pour moi est une des plus grandes actrices. Je venais de tourner avec elle, elle est totalement divine dans le film. J'adore ça. Elle est toujours sur un fil de sensibilité incroyable. Ouais, ils sont formidables, tous les deux, formidables. Ouais. Et les autres, Michel Villermoz, Antoine Laurent, ouais, ils sont tous formidables, ouais.
Moi, ce film, je dis que c'est une nécessité parce que j'aperçois Christophe Favre d'ailleurs qui est dans le film aussi, qui est pas loin de nous. Mais c'est vrai que c'est une nécessité pour en apprendre plus sur une figure, parce que c'est historique. Au-delà, on le voit dans le film, au-delà de cette figure de proue de la pauvreté, c'était aussi une figure politique à un moment donné.
D'ailleurs, de facto, c'est un film politique, pas politicard, mais c'est un film politique qui parle de notre époque, de notre passé proche, d'un constat qu'on réactualise d'une résonance très forte avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est un film qui parle de notre condition, donc à travers la grande épopée qui montre, il propose une réflexion. D'ailleurs, peut-être une réflexion sociologique me plairait plus qu'une réflexion politique sur notre époque.
Justement, comme il a l'amitié de nous rejoindre, Christophe Favre, merci d'être là également, et on est très heureux de te voir dans l'Abbé Pierre, justement en tant que un peu, on va dire, contradiction avec l'Abbé Pierre et ses décisions au sein d'Emmaüs. Juste une petite question, puisque t'es là, j'en profite, ton expérience au sein de cette aventure du film, raconte-nous.
Une expérience extraordinaire. Frédéric nous a fourni toutes les informations sur tous les personnages, toute l'époque. Donc on avait vraiment de quoi connaître tout le parcours de l'abbé Pierre, que je connaissais très peu, pour avouer. Je connaissais surtout la partie des années 80-90 en fait, voire 2000 plutôt. Donc là, j'avais toutes les archives. Donc c'était vraiment un travail qui pouvait être construit, puisqu'il était très riche. C'était très très enrichi, et c'est en cela où c'est très intéressant de travailler avec Frédéric, justement, puisque c'est vraiment comme un orfèvre. C'est-à-dire qu'on peut, avec nos personnages, on sait où on se situe. On se situe dans l'histoire, dans le temps, et par rapport aussi à ce que l'abbé Pierre nous donne à ce moment-là. Donc c'était d'une grande précision.
On fait face à un Benjamin Laverne plus vrai que nature, là.
Extraordinaire, extraordinaire. Les deux, là, mais j'ai pris un plaisir fou.
Le personnage qu'incarne Christophe, c'est un des banquiers en fait, qui arrivent au moment de l'appel de 54, qui vont commencer à entourer et un peu à formater, à organiser
Emmaüs.
Emmaüs, les débuts du mouvement Emmaüs.
T'as tourné sur plusieurs périodes.
Le tournage a été très long, voire éprouvant, parce qu'on a tourné, on s'est étalé sur 7 mois de tournage, avec plusieurs périodes dedans. On n'a pas tourné 7 mois en continu, mais on a tourné une grosse période en hiver, et puis une période en été, l'année qui a suivi. Tournage très complexe, évidemment, très compliqué. Mais peu importe, puisque c'est pour la postérité et pour l'abbé, donc peu importe les efforts qu'il a fallu fournir. Sur la longueur, moi j'avais envie de faire un grand film épique au sens populaire. Je m'imaginais que les gens allaient au cinéma avec délices en prenant leurs enfants, que les grands-parents allaient y aller avec leurs parents, avec leurs enfants devenus parents. Et en plus, c'est un film quand même assez éprouvant émotionnellement. On a des montagnes russes, on est dans la joie, dans la détresse, dans la peine, dans l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions dans le film, évidemment. Donc voilà, je trouvais que c'était tenable en 2h15, mais C'est vrai que ça a été un tournage extrêmement riche, comme tout le monde sans doute, puisqu'on commence avant la mobilisation de la Deuxième Guerre mondiale et on finit en 2007. Donc beaucoup, beaucoup de périodes sont abordées. Ouais.
On va écouter la bande-annonce, on va revenir dans un instant justement avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco qui vont nous rejoindre pour continuer à en parler. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine et c'est mercredi au cinéma, ne pas rater.
J'étais à vos côtés sur les bancs de l'Assemblée.
Les malheureux souffrent et regardent vers vous et vous ne faites rien.
N'est pas un fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon.
J'étais à vos côtés dans la rue et le froid.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
De retour dans Chut, on écoute la télé de l'Abbé Pierre, une vie de combat. On continue à en parler avec Benjamin Laverne de la Comédie Française qui nous rejoint. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
T'as vu, je rajoute la particule quand même. Hein.
Sur enfant de la Comédie Française. Vous n'êtes pas le seul à le faire.
Et puis on a Emmanuel Berco également qui nous rejoint. Deux habitués de l'émission. Je suis très heureux de vous avoir tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être là pour un film qu'on a pu voir il y a quelques semaines, quelques mois même au festival d'Angoulême. Un film incroyable. On en parlait avec Frédéric il y a quelques instants, mais Benjamin, déjà, première chose, j'ai envie de te dire, c'est que c'est même plus une incarnation pour moi, ça a été une réincarnation qu'on a vue. Et c'est totalement fou ce que tu as fait, parce que incarner cet Abbé Pierre sur 74 ans d'histoire, avec le maquillage, avec tout ce que tu as dû subir, parce que j'imagine que tu as subi des heures de maquillage à certaines périodes, ça a dû être épique ce tournage.
Bah oui, ça fait partie des aventures de tournage qui vous marquent, je pense, à vie. Et c'est ça, quand j'ai lu le scénario, c'est ça que j'ai vu aussi. Hein. C'est une aventure de cinéma extraordinaire, un tournage sur deux périodes, l'hiver et l'été, pour pouvoir avoir aussi en décor toutes les saisons. Des maquillages forcément lourds, il y a 9 stades de vieillissement et en effet la rencontre avec un personnage inouï qui est tellement émouvant que je savais qu'en fait ça allait être à la fois difficile et à la fois plus facile, parce que quand vous êtes bouleversé par un homme qui a existé, de savoir qu'il a existé, de dire ses mots, notamment des grands discours, il avait un talent d'orateur, c'était un tribun, il avait une théâtralité quand il prenait la parole démente, de savoir que ça avait existé et que je redisais que j'étais quelque part un peu une espèce d'héritage ou d'ersatz ou
de réincarnation.
De réincarnation comme vous le dites. Bah en fait moi j'étais moi-même très ému et très concerné et hyper honoré d'avoir à le défendre, et donc j'étais très porté par ça quand je le jouais. Et donc en fait par exemple, parfois un acteur il peut être très intimidé par le fait de jouer des scènes d'émotion ou de se dire où est-ce que je vais aller devoir chercher ça. J'avais confiance, en fait, j'étais vraiment porté par son message, par ses mots, et je savais que ça allait m'aider terriblement à jouer. Et on a été bouleversé par les retours des gens de la Fondation Abbé Pierre, ou de même ceux qui l'ont connu, de son dernier secrétaire, Laurent Desmarres, qui n'en revenait pas à la fin de la projection à Cannes, et qui nous disait, mais, oh, j'en reviens pas de ce que vous avez fait, mais c'est fou, et c'est lui! C'est vraiment lui! Et ça, en fait, c'est les plus beaux retours qu'on peut avoir.
Emmanuel? On apprend du coup dans ce film que l'abbé Pierre a vécu quand même une histoire quasiment d'amour platonique avec Lucie pendant 40 ans, avec laquelle il a vécu quand même, qui a été sa confidente, sa meilleure amie. Enfin, c'était tout pour lui.
C'était aussi son bras droit dans le travail, dans la fondation, les fondements d'Emmaüs. C'était un peu la tête pendant que lui il courait partout dans le monde. Ou dans Paris ou dans la France. C'est vrai qu'ils ont vécu 40 ans ensemble sous le même toit, vraiment comme un couple, évidemment en faisant chambre à part, et qu'ils avaient dû, que l'abbé Pierre, j'ai vu le courrier, avait demandé l'autorisation à l'archevêché, la plus haute instance religieuse du pays à l'époque, de pouvoir vivre avec cette femme sans qui il disait qu'il n'arrivait plus à abattre tout le travail qu'il avait à abattre. Ils ont eu cette autorisation et ils ont à la fois eu une complicité immense dans le travail, mais aussi dans la vie quotidienne, parce qu'elle s'en occupait comme d'une femme au foyer, quoi. Elle lui lavait ses chaussettes, elle lui rangeait ses slips, elle faisait à manger, enfin elle faisait absolument tout, elle tenait les cordons de la bourse. Elle est un pilier d'Emmaüs et l'abbé Pierre le dit lui-même.
Comment se prépare à un rôle comme ça?
Là, on peut pas faire confiance en l'écriture, puisqu'on interprète un personnage qui a existé. Et même si moi, je n'avais pas à être dans l'imitation, parce que personne ne connaît cette femme, je voulais quand même rendre grâce à cette femme, m'approcher au plus près de ce qu'elle était. Donc, je suis partie de tous les documents que j'ai pu trouver. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait assez quand même pour que je puisse tricoter quelque chose qui me semblait pouvoir s'approcher d'elle.
Benjamin, toi, comment tu t'es préparé justement au rôle?
Beaucoup de lectures. Au début, c'est vraiment ça, parce qu'il faut rencontrer en effet l'homme. Mais Frédéric Tellier, le réalisateur, m'a fait un choix aussi d'une bibliographie pour ne pas s'éparpiller dans les lectures, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Certains sont un peu lisses. C'est des hagiographies. C'est que l'homme saint. Et puis on voit pas. D'autres sont beaucoup plus intimes, plus complexes. Son côté sombre est abordé. Son amour aussi des femmes. Je sais pas. Sa noirceur aussi dans les doutes qu'il avait. À quel point il se laissait pas tranquille, à quel point il s'éprouvait lui-même dans des pérégrinations mentales qui l'épuisaient, où il était en larmes. Le fait qu'il soit aussi accro parfois aux amphétamines quand il était en tournée de toutes ses conférences et qu'il était victime et de son succès, parce qu'il disait un peu de succès, c'est agréable. Et puis dès que ça dépasse un peu de succès, c'est vraiment je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi, il dit. Donc beaucoup de lectures. Beaucoup de séances avec de lecture aussi du scénario avec Frédéric, beaucoup de débats sur le personnage, sur comment lui le voyait, de comment il allait filmer certaines choses, et puis évidemment de l'incarnation, donc des costumes, énormément d'essais costumes et maquillage.
T'as eu combien le pire dans le maquillage ?
Le pire c'est 6 heures, 3 heures du mat à 9 heures. Et sans bouger. Enfin, j'ai évidemment pause pipi. On me préparait des smoothies. J'étais très content. Des espèces de sommeil, des espèces de méditation bizarre où quand on se réveille, on a pris 20 ans. C'est une espèce de concentration bizarre. Je regardais beaucoup d'archives pendant que je me faisais maquiller. J'en profitais aussi pour apprendre les scènes de la semaine d'après. C'est étrange ces 6 heures à traverser. À la fois, ça passait quand même assez vite. C'était bizarre. Ça permet de se concentrer. Et puis je me réveillais parfois en effet en halluciné de voir le travail de titan et de grand artisanat de l'atelier 69 à Montreuil. C'est des génies du maquillage. Ils vont jusqu'à vous faire les petites veines, la coupe rose, les taches de vieillesse, les teintes. Enfin, c'est monstrueux. Et ça aide beaucoup à incarner, à jouer, de se voir dans la glace, d'y croire, de se mettre le menton en galoche et de jouer avec c'est la question de la vieillesse, la taille des oreilles, la bosse derrière le dos, de se mettre accroupi sur les jambes pour surtout pas être trop grand, de rentrer le cou, parce que moi j'ai un grand cou de girafe et lui il était tout petit. Donc tout ça c'est passionnant, c'est l'éclate et ça participe beaucoup de l'arrivée du personnage, c'est sûr.
C'est franchement, allez voir ce film, ça s'appelle L'Abbé Pierre, une vie de combat. Ça sort mercredi au cinéma pour ce 8 novembre. C'est le film à ne pas rater. Alors comme on est le 6 novembre aujourd'hui, Benjamin, il nous reste une petite chose à faire avant de se quitter. Il paraît que c'est l'anniversaire de quelqu'un.
Joyeux anniversaire Emmanuel. Joyeux anniversaire Emmanuel. Joyeux anniversaire Emmanuel Berco.
La tierce, nul.
Joyeux anniversaire Lucie Coutaz.
Et bon anniversaire Emmanuel pour ce 6 novembre.
Si, ça me fait trop plaisir.
On vous embrasse très fort. J'espère qu'on a été les premiers aujourd'hui.
Elle n'a plus d'âge. Elle a un âge à 3 chiffres.
Allez, merci en tout cas à vous deux. On termine cette spéciale Abbé Pierre et c'est mercredi dans les salles. On se quitte avec un extrait. Merci infiniment.
Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Rien, on t'attendait.
Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi.
On écoute la télé spécial festival.
À la veille de cette 32e édition du festival du film de Sarlat, nous allons nous diriger déjà direction Sarlat, la veille de l'ouverture, avec Christelle Oscar qui est la directrice artistique du festival. Bonjour Christelle.
Bonjour Alain.
Bon, on prend la route demain matin, on vous rejoint tous hein, là-bas à Sarlat pour notre plus grand plaisir. On va aller passer une semaine de cinéma. C'est vraiment le rendez-vous incontournable des passionnés de cinéma, mais aussi des jeunes passionnés de cinéma. Parce que la particularité, il faut le dire, du Festival de Sarlat, c'est vraiment son programme lycéen et des lycées de toute la France, des classes de cinéma de toute la France qui viennent se donner rendez-vous pendant cette semaine de fête.
Tout à fait, on vous attend et tout le monde est en train d'arriver peu à peu, donc voilà, d'ici demain, on sera tous au complet, on pourra faire, j'espère, une très belle ouverture.
Et oui, puis il y a une superbe sélection, il y a de nombreux artistes qui vont venir pendant cette semaine à Sarlat. Mais parlons un petit peu justement de cette sélection. Comment tu fais pour les choisir, toi qui es directrice artistique justement, Christelle ?
C'est vrai que ça passe par plusieurs filtres. Il faut déjà que les films soient prêts pour le mois de novembre, parce que moi je m'y mets dès le mois de
d'avril-mai à peu près pour visionner des films qui sont censés donc être prêts, qui sont censés aussi sortir après le festival, sur toute la période qui court d'avril-mai jusqu'à septembre. Je visionne. Mon filtre principal, je dirais que c'est l'idée du lycéen qui est en spécialité cinéma. Donc ce sont ces 600 élèves qui viennent de toute la France et pour lesquels on constitue un programme qui est à la fois pédagogique, lié à leur programme au bac. Ça, c'est une chose qui est vraiment de qualité. Mais par rapport aux films de la sélection officielle qui leur sont montrés, ce qui m'anime, c'est l'envie de leur donner envie de continuer à faire ce qui est pour le moment à l'état un petit peu de petites graines et d'ébauche. C'est-à-dire, ils sont en spécialité cinéma, donc ça veut dire quand même que le cinéma les intéresse. Certains en font leur métier, d'autres pas forcément. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'ancrer un petit peu plus. Donc quand je vois des films, je pense à eux. Qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer? Si c'était mon petit frère, ma petite sœur, dans quel retranchement j'ai envie de le pousser pour qu'il voit des choses un petit peu différentes, pas forcément formatées pour lui ou pour elle, mais qui peuvent quand même l'entraîner dans quelque chose. Donc voilà, c'est mon premier filtre. Et puis ensuite, je pense aussi au public, à un autre type de public, qui est le public sarladais, qui est le public cinéphile, donc c'est aussi un public d'un autre âge, d'une autre génération, qui ne se dirige pas forcément vers les mêmes propositions. Et ça, c'est un public que j'ai un peu envie de pousser aussi dans ces retranchements d'une autre façon. Quand on est amené à choisir un film dans une liste de films qui sortent et qui sont nombreux, des fois il y en a 15 par semaine, il faut on part avec l'idée qu'il faut pas se rater, qu'il faut pas être déçu, donc on va faire quelque chose.
Mais il faut faire des choix.
D'un peu confortable et le festival, il est là pour bousculer un petit peu ça.
Alors, il y a des habitués hein, maintenant un peu du festival. Karim Leclou qui revient pour Vincent doit mourir, justement, oui. Qui est un film d'action. On va retrouver Mélanie Thierry qui fait également son retour du coup à Sarlat. Puis des petits nouveaux comme Ahmed Silla qui sera là cette année pour le premier film d'Ali Mariar, qui est une des stars de Candice Renoir, d'ailleurs, dont on a vu un épisode spécial lundi dernier. Mais franchement, il y a vraiment une programmation éclectique et qui va plaire à tout le monde, j'en suis sûr. Il y a de quoi, en tout cas, plaire pour tous les goûts dans cette sélection.
Oui. Là, cette année particulièrement, l'édition est éclectique. Elle propose des genres assez variés, assez différents. Il y a des films qui flirtent avec le fantastique, comme Vincent doit mourir. Il y a un vrai film de survie, le film de Thomas Biguin, Soudain seul, où deux personnages se retrouvent seuls sur une île. Il y a aussi un drame burlesque absolument délicieux, qui est La fille de son père. Il y a un film plutôt thriller, qui est La tête froide, avec Florence Moiricaille. Et puis il y a un film vraiment politique, un peu coup de poing, très social, qui est le film de Ladji, qui avait fait Les Misérables, et là qui s'intitule Bâtiment 5. Il y a aussi un film d'époque très moderne, c'est le film d'ouverture, ça j'en ai pas encore parlé, mais il s'agit de La nouvelle femme de Léa Todorov, qui est un film avec Jasmine Trinca et Leïla Bekti, qui sont absolument fabuleuses. Et puis la clôture, je pense à la clôture qui est...
Ah oui, avec comédie, Les Rois de la Piste.
Loufoque, Les Rois de la Piste, avec Fanny Ardant et en matriarche, et ses trois fils, Duvauchel, Kassovitz et Ben Attal.
Et Nicolas Duvauchel qui sera d'ailleurs à Sarlat, d'ailleurs pour présenter exactement. Le film aux côtés de Thierry, un film qu'on a vu au Festival d'Angoulême et qui est absolument délicieux. Je vous conseille évidemment, si oui. Vous êtes du côté de Sarlat,
ouais,
de venir voir.
Terminée.
Christelle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 32e édition? Plein de belles choses, plein d'artistes, plein de publics, plein de jeunes.
Exactement, qu'ils fassent un temps de cinéma, c'est-à-dire pas trop de pluie, mais pas trop de soleil non plus, hein, pour que les gens soient bien dans les salles. Et puis non, je pense qu'on est bien, organisé, l'équipe est complètement sur le pont. On est tous maintenant tous un peu rodés à l'événement, donc voilà, je suis persuadée que ça va être encore une très belle édition.
Mais j'en suis sûr aussi, vous pouvez aller découvrir en tout cas le programme de cette 32e édition sur le site festivaldufilmdesarlat.com. Vous pourrez découvrir les films en sélection officielle, le tour du monde, les jeunes regards, les séances spéciales, les hors compétitions, les courts-métrages évidemment qui vous sont proposés pendant toute cette semaine de fête. Christelle, merci. On prend la route demain matin et
merci,
on sera
Anna.
Ensemble dès demain soir pour vous faire vivre en tout cas sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, tout au long de la semaine, cette 32e édition du Festival du Film de Sarlat.
là en Périgord noir. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer. Merci beaucoup Christelle et à demain.
Merci Alain, à demain.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute on écoute la télé, ça sera une spéciale Gueule Noire, le film de Mathieu Turie, qui sera notre invité avec Amir El Kassem et Samuel Le Bihan. On recevra également Janice Abric qui joue dans Ici tout commence, ainsi que la productrice Sarah Faramand également de la série.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus, prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agences en charge à votre service à Angoulême et Villebois-Lavalette et sur mazagran-immobilier.com.